Je bent denk ik, was hier nog hoofdredacteur een jaar of 10 geleden zeker?
In een vorig leven, ja. Ja.
En dan naar Haiti verkast en dan een jaar of 4 geleden teruggekomen, hè?
Ja, 4,5 jaar geleden ben ik teruggekomen. Ja. En ik zat daar het meest relevant is van mijn aanwezigheid, is de observaties die ik daar gedaan heb van de verkiezingen van 2015 en 2016, die daar van de deze week vermoorde president aan de macht hebben gebracht. Hè.
Die Moïse, van waar komt die uit? Wat voor iemand?
Dat was een zakenman, die vooral in de bananen boerde. En daar goed in boerde. Die is aangesteld geweest als Poulain door de vorige president, Michel Martelly. Dat was die zanger, daar had ik misschien ook een cd'tje van kunnen meenemen, maar heb ik dat maar niet gedaan. Een figuur zonder enige politieke ervaring. En die is dan gebombardeerd tot president, mits verkiezingen, maar dat waren eerder zowat, zoals dat we dat dan misschien moeten zeggen, de checkbox verkiezingen van hebben we verkiezingen georganiseerd, ja of nee, en dan kan men het vakje ja aankruisen.
Ja, en voor de rest scheelde er daar wat aan volgens jou? Wat?
Niet alleen volgens mij. Ik heb daar geobserveerd voor een Haïtiaanse organisatie, de Commission Episcopale Justice et Paix. Maar eigenlijk alle Haïtiaanse observatiemissies, en inclusief het middenveld, maar ook de politieke sector, de zakenwereld, de kerkgemeenschappen, er was eigenlijk niemand die geloof hechtte aan die verkiezingen. Er is toen in de ronde dat ik geobserveerd heb, was er 18% van de mensen gaan stemmen. Dat hebben we ik zat al jaren geleden, een jaar of 5, 6 geleden toen toegelicht, even ter herinnering roepen, ja, 18% van de mensen dat effectief gaat stemmen, dat is uiteraard bijzonder weinig. De mensen dat dan nog zijn gaan stemmen, de stemmen dat dan uiteindelijk geteld zijn geweest, dat gaat dan nog om, ik zal het anders zeggen, de manier dat er daar gestemd werd in die periode, en ik heb dat zelf ook kunnen ervaren, is dat er veel geweld gebruikt wordt. Hè. Een bepaalde kandidaat verliest, ligt achterop in een bepaald stembureau, dan gaan we dat stembureau aanvallen en dan ligt onze kandidaat weer voorop. Hè. Dat is niet systematisch gebeurd, maar het is wel op verschillende plekken gebeurd. En heel dat klimaat van die verkiezingen, dat was uiteraard al zeer ongunstig. Internationale missies daarentegen, die vonden het allemaal wel oké.
Wat is dat dan, internationale missies? Dat is dan de vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap, van Europa en de VS enzovoort? Of?
Er was een grote observatiemissie van Europa, maar ook de Organisatie van de Amerikaanse Staten was daar. Dat zijn zowat de grote missies, er zijn nog andere geweest ook natuurlijk. Maar dat zijn zowat de grote waar dan naar gekeken wordt. De Verenigde Staten spelen uiteraard een belangrijke rol in die Organisatie van de Amerikaanse Staten. Maar Europa, waar dat toen een beetje mijn focus op lag, die legitimeerde ook die verkiezingen. Hè. Ik bedoel, het feit dat er zaken in de campagne gebeurden die eigenlijk ongrondwettelijk waren, zijn de grote campagnemanifestaties in de speerperiode, noemt men dat, denk ik, dat er eigenlijk alles verboden is. Ja. Daar is allemaal, dat stond dan zo in het rapport van, ja, die waren er wel, maar dat heeft geen invloed gehad op de stemmingen. Inclusief ook het geweld dat er gepleegd is. Er was wel wat geweld, maar het was niet van die mate dat de stembusgang heeft kunnen beïnvloeden. Dus,
Ik herinner mij zelf, was het niet Herman van Rompuy die er dan naartoe gegaan is of zo? Een of andere Belgische voormalige premier of zo? In het kader van een Europees, als Europees vertegenwoordiger of zo? Want die is nog voorzitter van de Europese Raad geweest. Hè? Maar in alle gevallen, wat is dan de... Waarom doen ze dat? Enig idee? Die internationale gemeenschap, dat... Ja, die... Is dat omdat het de gemakkelijkste oplossing is? Of...
Ik denk voor een stuk omdat zij... Kijk, is een beetje het verhaal van die verkiezingen is het eigenlijk het enige antwoord dat wij kennen. Terwijl dat een situatie van Haiti, er wordt de hele tijd heel hard gefocust op die verkiezingen, maar in 1986 is Baby Doc Duvalier, Jean-Claude Duvalier, vertrokken. Eigenlijk sinds dan is er heel de tijd verkiezing na verkiezing na verkiezing, maar er is nooit echt kunnen gewerkt worden aan een project, aan de uitwerking van een piste, een oriëntatie te geven aan dat land van dit is nu waar dat wij economisch op gaan voortboeren in de komende jaren, waardoor dat je dan een sociaal systeem kunt uitbouwen en dergelijke meer. Dus heel de lokale economie is eigenlijk gebombardeerd geweest door concurrentie van goedkopere buitenlandse import. In bijzonder voor de voedselzekerheid heeft dat tot op de dag van vandaag enorme gevolgen. Hè. Bedoel, er is ik dacht deze week nog gelezen hebben dat 60% van de Haitianen vandaag in voedselonveilige situaties zitten.
Ja. En dat was er enerzijds, heb je dan, wat ik dan op Democracy Now, dus de links-Amerikaanse zender hoor, ze wordt dan naar Aristide verwezen als een soort, dat was misschien een alternatief voor een ander beleid. Je moet maar een commentaar erop geven. Hè. En anderzijds hebben we destijds met jou ook veel gesproken over dan de economische zones met de Clintons en zo.
Ik denk, kijk, de eerste democratische verkiezingen die er werden georganiseerd, dan is Aristide aan de macht gekomen. Hè. Dat was 1991 zelfs. Ja, ik spring een decennium verder al. In 1991 is Aristide verkozen geweest, maar die is vrij snel, ik denk na 9 maanden, is die al aan de kant geschoven geweest door een militaire staatsgreep, waarvan dat toch wel zeer grote indicaties zijn dat daar ook Amerikaanse inmenging in was. De Amerikanen hebben hem, Aristide is dan vertrokken, is in 1994 met hulp van de Amerikanen teruggekomen. Maar dat was niet meer die Aristide die in eerste instantie in 1991 verkozen is geweest, alsof dat hij wat gekneed was in zijn periode in de States. En dan ook een aantal toegiften heeft gedaan, bijvoorbeeld met het vrijmaken van die markten, het naar beneden halen van de douanetarieven voor buitenlandse import en dergelijke meer. Is dan ook in een later stadium ook opnieuw de omdat zijn populariteit wel daalde, dat was duidelijk, is hij ook gebruik gaan maken van gewapende bendes.
Oké. Okay. Maar die is dat toch nog een keer president geworden en weer afgezet of zo?
Die is opnieuw verkozen geweest en dan in 2004, de versies lopen uit elkaar, afhankelijk van wie dat je het verhaal vertelt. Volgens sommigen vrijwillig vertrokken, volgens anderen was dat een soort van staatsgreep ook, hè, waarin dat eigenlijk de rijke bourgeoisie in een vreemde coalitie met het middenveld eigenlijk de oppositie tegen Aristide dermate de straat opbracht dat die man uiteindelijk vertrokken is geweest. Ja. En dan wel ergens een papier heeft ondertekend dat hij afstand doet van de macht.
Maar en zegt dan, als we nu terug gaan naar Martelly, Moïse, dat hij eigenlijk een beetje de aangeduide opvolger was van Martelly, die ook al een beetje een raar figuur was, een zanger. Is hij dan een stroomman, moeten we hem zo zien? Wie?
Pardon?
Is hij dan een stroomman van bepaalde belangen? Dat je aangeeft dat hij niet op die plaats gezet is voor zijn capaciteit, hè, als leider van een land.
Ja, ik denk dat zowel Martelly als als tot vorige week Moïse, dat mensen zijn geweest die vooral gedragen zijn geweest, zeker en vast door een deel van de Haitiaanse bevolking. Maar die vooral ook de voorkeur wegdroegen van de internationale gemeenschap, opnieuw, Organisatie Amerikaanse Staten, maar vooral ook Washington en Brussel. De belangen voor Washington daar, er worden veel vragen over gesteld, want Haiti is geen rijk land met waanzinnige grondstoffen als goud, diamant of olie die al onmiddellijk ontginbaar is. Er zit wel wat in de grond, maar het, voor de Amerikanen gaat het wellicht om de goedkope arbeidskrachten. Speelt mee, hè. Er zijn heel veel wat men dan vaak sweatshops noemt, er is heel veel op ingezet geweest Onder andere door de Clintons. Er is een industriepark toen geopend geweest in de periode dat ik daar was. En ja, dat gaat om minimumlonen die nauwelijks waardig zijn. $3 per dag in de Haitiaanse munt, die dan vervolgens devalueert, zodat het terug maar $2 per dag is. Enfin, dat zijn...
Ik herinner me nog de discussie over de verhoging van dat minimumloon, maar die bestaan nog allemaal, want we zijn ondertussen ook weer... Ja. Meer dan 5 jaar of 10 jaar verder.
Dat minimumloon is verhoogd.
Maar ik bedoel, die belastingsvrije zones, of wat dat ook is, waar dan die jeansfabrieken worden gezet, waar mensen dan dus een kost van niks eigenlijk bijna, dus die kledij maken. Dus dat is gewoon, want dat was precies, dat werd dan voorgesteld als we gaan hier de economie in Haiti gaan ontwikkelen.
Ja, maar dat is gewoon een totaal exportgerichte economie en eigenlijk de meerwaarde die ter plaatse blijft, of die ter plaatse wordt gecreëerd, die wordt direct mee geëxporteerd met de buitenlandse bedrijven die daar, daar heeft Haiti weinig aan, buiten mensen aan een... aan een hongerloon te werk stellen.
Is er een ander woord voor? Is kolonialisme natuurlijk.
Ja, je kunt dat zo noemen, ja. Zeker en vast. Ja.
En dan naar de Moïse. Wat zijn de... Weet je wat, of gaan we eventjes kort onderbreken en dan... ik heb dat plaatje niet opstaan. Welk nummer?
3, denk ik.
3.
En dat is... Humiliation. Vernedering.
Voilà, wie is dit weer al, Joris?
Bekken. Een man met zijn gitaar.
Echte Caribische, zingende...
Nee. Het is iets helemaal anders.
Het is wel een keer interessant om zoiets, dit genre te horen uit... Je hebt, ik weet dat in Cuba ook, de Trova... die meer chansonachtig is. Maar bon, dus terug naar de problematiek. Moïse. De moord op de president. Je had het over de grondwet. Er is er iets met de grondwet waarover je iets wilde zeggen. Wat is er het probleem daar? Wat is er,
ik denk dat het misschien interessant is om dat toch heel even kort toe te lichten. We gaan zelfs bellen met Colette Lespinasse, die met een journaliste in Port-au-Prince, die ook vaak voor het middenveld vaak met het middenveld werkt en zelf eigenlijk ook daar uit die sector komt. Het is misschien handig om dat even op voorhand toch toe te lichten. Ik zei er net, in 1986 is de Jean-Claude Duvalier vertrokken. Dan is er een heel proces gestart om met verschillende gesprekken op alle niveaus in alle provincies om echt te kijken van wat is er nu nodig dat in een nieuwe grondwet zou moeten komen. Dus dat is eigenlijk een waanzinnig participatief proces geweest. En dat heeft geresulteerd in de grondwet van 1987. Die heeft zijn sterktes, ook zijn zwaktes. Een aantal van die zwaktes is bijvoorbeeld dat er heel hard wordt gedrukt op verkiezingen. En in een dergelijk ritme dat er tenminste om de 2 jaar moet gestemd worden. Dat is 1, een zeer kostelijke affaire. 2, dwing je eigenlijk die zogenaamde politici dan om ook gewoon eigenlijk permanent in campagne te zijn. En er komt weinig naar voren als hetgeen dat ik er juist ook zei, denk ik, dat project, dat moet wat groeien, dat heeft een zekere maturiteit nodig.
Het lange termijn.
Voilà, waar wil men naartoe met dat land? Ik bedoel, hoe wil men uit dat moeras geraken? Dat is een van de zwaktes. Dat is... Dat wordt erkend. Hè. Ik denk dat daar weinig discussie over is. Dus er kunnen wel wat wijzigingen aan gebeuren. Nu, Martelly, vorige president, heeft in 2011 eigenlijk die grondwet geamendeerd. Dus er zijn een aantal wijzigingen in die grondwet gebeurd. Jammer, maar helaas. Er zijn 2 talen, officiële talen in Haiti. Uiteraard moet een grondwet in de 2 officiële talen... gepubliceerd worden.
Dat is dan Frans en Creools?
Dat is inderdaad Frans en Creools. die is gepubliceerd geweest, die grondwet, in het Frans, maar nooit in het Creools. Dus eigenlijk is de grondwet van de geamendeerde grondwet uit 2011 is die al ongrondwettelijk. Omdat die gewoon nooit gepubliceerd is in het Creools. Enfin, om even de vergelijking te maken, stel u zoiets voor hier in dit land. Onze Vlaams nationalisten staan direct op de barricade. Ja, hè? Ja. Maar die grondwet heeft ook meer de waarde van een vod papier. Ja. Als iets anders.
Maar nu Moïse met en de grondwet. Want,
dus een van de artikels die daarin geamendeerd zijn, is bijvoorbeeld, wat gebeurt er als de president, om wat voor reden dan ook, zijn functies niet meer kan uitvoeren. Hè? Ja. Dat is vandaag zeker het geval. In de grondwet van 1987 stond dat daar de voorzitter van het Hof van Cassatie de opvolging moet doen, tijdelijk, om dan verkiezingen te organiseren en dergelijke meer. Voilà, dat is optie 1. Hè. Dus we hebben twee grondwetten om uit te kiezen. Optie 2 is, de geamendeerde versie van 2011, is het is de eerste minister.
Okay.
Probleem met de eerste optie, de voorzitter van het Hof van Cassatie, is dat die man een twee of drietal weken geleden gestorven is aan COVID. Optie bestaat niet meer. Dan zouden we kunnen zeggen, van we gaan naar de volgende stappen uit nog altijd die grondwet van 1987, wat dat dan op andere niveaus ook een aantal rechters zouden kunnen zijn. Maar men heeft dan geopteerd van, we gaan eerder kijken naar de geamendeerde versie vandaag, zijnde de eerste minister. Die eerste minister die had ontslag genomen en er was een nieuwe aangesteld, maar nog niet geratificeerd. Hè. Dus dat is een verhaal dat je vandaag ook wel wat in de media hoort. Je zit daar dus met twee grondwetten. De eerste optie van de eerste grondwet is eigenlijk geen optie. De tweede optie, zit je eigenlijk met twee personen die één ontslagnemende eerste minister en een andere die al was aangesteld, maar nog niet echt.
Dat is een beetje chaos dus. En het land heeft ook geen leger, altijd een machtsfactor natuurlijk. En er wordt zelfs, ik hoor dat er zou gevraagd worden om buitenlandse interventie.
Ja, ik hoor dat ook, ja. Het laatste wat ik ook veel hoor is dat het effectief een staatsgreep zou kunnen zijn en dan zouden buitenlandse militairen natuurlijk de oplossing zijn om bijvoorbeeld die bendes in het geweld dat er vandaag is om dat wat onder controle te krijgen en opnieuw te gaan stabiliseren, maar de VN is daar waanzinnig hard in gefaald in de jaren dat zij daar ter plaatse hebben gezeten.
Ja. Maar dan, de vraag is natuurlijk, wie zit er achter de staatsgreep? Waarom denkt men dat? Want in eerste instantie hoorde ik van nee, want bij een staatsgreep heb je normaal gezien iemand die ze opeist. En nu is er niets opgeëist. Integendeel, zit met een machtsvacuum en er zijn verschillende personen die volgens de verschillende grondwetten dan het presidentschap opeisen.
Ja. Dat is de vraag van 1 miljoen, denk ik. Hè. Voorlopig heeft niemand daar echt een duidelijk antwoord op. Er is toch wel wat argwaan uit wat ik hoor van de mensen die ik intussen dan gesproken heb. Ja, dat die Claude Joseph, de huidige aftredend eerste minister, maar die dat dan voorlopig wel de functie eigenlijk waarneemt en ook door de VN wordt aangeduid als nee, dit is dan de man die het maar naar de verkiezing moet leiden. Ja, dat er toch een aantal zaken wat opmerkelijk zijn, bijvoorbeeld in de tijdslijn, de moord is gepleegd, uren later is er dan op nauwelijks enkele kilometers zijn er x aantal Colombianen gearresteerd en een aantal overleden. Enfin, hoe is de echtgenote van de president in naar het ziekenhuis gebracht en dergelijke. Er zijn heel veel vraagtekens. Hoe is die Haïtiaanse politie die er op sommige momenten niet in slaagt om het verkeer geregeld te krijgen? Hoe is die erin geslaagd om plots een internationaal huurcommando zo vlot te arresteren? Er zijn heel veel vraagtekens.
Ja. Maar is er eigenlijk iets geweten over de identiteit van die gasten?
Colombianen, een aantal, ik dacht een zestal, zijn bevestigd door de Colombiaanse overheid als ex-militairen.
Ja.
Maar wie heeft hen?
En er was er een opname waar er over DEA gesproken werd met een Amerikaans accent. Is die opname echt? Ik bedoel, los van het feit of ze kunnen natuurlijk zeggen wat ze willen, hè?
Ja, en bon, met een Amerikaans accent. Het was vooral een Amerikaans met een buitenlands accent, als je goed luistert, denk ik. Dus,
ja. Oké, we gaan dus dat een, wat is het, Bradji 2 opzetten terwijl we Colette bellen, hè?
Ja.
Want we moeten, als Dennis hier is vandaag, moeten we er binnen minder dan een kwartier uit. Goed. En zeg nog eens, Colette is?
Colette Lespinasse is een dame die zeer lang in het middenveld heeft gewerkt en die journaliste is.
Oké. Ja.
Ondertussen hebben we Colette Lespinasse. Bonjour, madame Lespinasse. Vous nous entendez bien?
Oui, je vous entends bien. Bonjour, monsieur.
Oui. Colette, voilà, bon, on a parlé ici un peu de ce qui s'est passé, de la loi mère, la constitution, comment Moïse était l'ancien président était venu au pouvoir. Avec vous, on aimerait bien un peu regarder comment qu'est-ce qui vit dans dans les pensées des Haïtiens aujourd'hui avec ces étrangers qui ont été arrêtés et le nombre de points d'interrogation qui restent sur les circonstances quand même très bizarre de cet assassinat. Qu'est-ce que les gens à Port-au-Prince, qu'est-ce que les organisations sentent ce qui s'est passé?
Bon, d'accord, je salue encore tout le monde. Et alors, en Haïti, on est encore sous le choc de la nouvelle de l'assassinat de M. Jovenel Moïse, qui jouait le rôle de président de la République jusque-là en Haïti. Mais en même temps, on a beaucoup, beaucoup d'interrogations sur ce qui se passe. Il est vrai que le directeur de la police nationale a présenté des individus et d'identité étrangère qui seraient responsable de ce assassinat, mais les gens ont beaucoup d'interrogations. Comment ont-ils pu pénétrer dans la résidence privée d'un président de la République? On estime qu'il y a certainement des complicités internes et qu'ils ne sont pas du tout identifiés ni même pointés du doigt. Et les dernières informations mettent en question même cette version. Et il semble que les Colombiens dont on parle seraient plutôt des gens qui étaient en train de travailler pour le président et qui auraient même participé à sauver la vie de la première dame. Donc il faut dire que vraiment, vraiment, il y a beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de choses qui ne sont pas élucidées. Et c'est pourquoi on parle de probablement qu'il s'agit d'un coup d'État.
Oui, oui. Beaucoup de questions qui restent sur l'emploi du temps aussi. Il y a eu le président qui a été assassiné le 7 juillet à 1h du matin, heure locale. Mais la bataille entre les soi-disant assaillants a été menée plus qu'une quinzaine d'heures après, à quelques kilomètres seulement du lieu de la résidence du président. Ceci en soi pose beaucoup de questions, n'est-ce pas?
Oui, beaucoup de questions. Et on se demande comment et un commando aussi bien équipé et entraîné qui a pu faire ce coup extraordinaire n'est pas passé à son exfiltration, c'est-à-dire à sa sortie de la zone. Et donc, il y a beaucoup de points d'interrogation et certains militaires qui ont commenté l'événement disent que c'est le gamma, hein. Dans l'étude militaire, on dit que ce sont quand même d'anciens militaires qui ont fait le coup. Et selon d'autres versions, ces gens seraient venus au contraire aider quand on les a appelés et ils vivaient déjà dans la zone. Et quand ils ont vu qu'ils s'étaient piégés, donc il y en a qui ont essayé de se cacher. C'est pourquoi on a retrouvé quelques-uns dans une maison dans la zone. Et il y a un groupe aussi qui a essayé de demander refuge et à l'ambassade de Taïwan qui se trouve tout près de la zone. Selon des journalistes, qu'ils ont vu dans la matinée et du 7 juillet après l'assassinat, ces gens sur la route qui étaient apparemment en train de mener une opération ou de travailler avec la police nationale. On ne comprend pas pourquoi tout d'un coup après on parle d'eux comme des fugitifs ou des gens qui auraient perpétré le coup. Ou bien est-ce qu'il y aurait un autre groupe d'étrangers? Donc on ne sait vraiment pas, c'est encore la confusion. Il y a beaucoup de questions aussi sur l'efficacité de la police nationale d'Haïti qui est très rapide, alors qu'en général, les enquêtes en Haïti n'aboutissent pas et la police montre toujours une certaine nonchalance ou très inefficace pour avancer dans les enquêtes vraiment très basiques. Et que maintenant, rapidement, ils ont pu quand même avoir toutes ces informations. Il y a aussi à ce niveau beaucoup, beaucoup d'interrogations. Et on se demande aussi si ceux-là qui mènent l'enquête actuellement ne devraient pas être sous les verrous, comme le directeur de la police nationale, ou même M. Claude Joseph, qui se présente devant la scène comme étant même l'héritier de M. Jovenel Moïse, parce qu'il dit qu'il assume le poste de Premier ministre, alors que normalement il avait déjà démissionné et avait déjà fait ses adieux. Il remplace même le président parce qu'il brandit l'article 149 qui lui donnerait et le droit et l'office en tant que président. Donc on se demande si ces gens-là ne devraient pas être aussi sous les verrous parce qu'ils sont quand même le premier responsable de la sécurité du président qui a été assassiné.
Madame Lespinasse, on va essayer de vous rappeler parce que la ligne est vraiment pas bonne. On va essayer de vous rappeler jusqu'à l'instant. Donc, on revient chez vous tout à l'heure.
D'accord.
Ah ouais. Et oui, voilà, Madame Lespinasse, vous nous entendiez bien. Le problème était surtout chez nous. J'espère que maintenant la ligne est mieux.
Bon, je vous entends très bien. Comment ça passe maintenant?
Ça marche mieux, on vous entend mieux. Voilà.
D'accord.
Donc, bon, on vient de parler sur les circonstances très suspectes de l'arrestation, l'action extrêmement rapide pour la police nationale d'Haïti, le fait que les gens arrêtés aujourd'hui et indiqués comme les soi-disant auteur de l'assassinat était plutôt peut-être des gens qui travaillaient pour le président. Donc tout ça pose beaucoup de questions, bien évidemment, sur les circonstances de l'assassinat et les gens qui ont commis cet acte et commandé cet acte. On pense, on espère qu'il y aura beaucoup de plus de clarté qui va arriver dans les prochains jours. Mais ce que j'aimerais voir avec vous aussi, c'est on entend aujourd'hui, dans la média aujourd'hui, ici, on parle aussi, on veut éventuellement, si je ne me trompe pas, c'est Claude Joseph, le Premier ministre d'aujourd'hui, qui a demandé pour des troupes américaines qui viendraient pour stabiliser des secteurs stratégiques.
Alors, Monsieur Claude Joseph est très suspect et vraiment il est très critiqué dans le pays. Et le Premier ministre qui avait été choisi et nommé par M. Jovenel Moïse avant son assassinat qualifie M. Claude Joseph d'usurpateur de titre parce qu'il avait déjà laissé pratiquement la primature, il a démissionné, il avait fait ses adieux et on ne comprend pas comment rapidement il reprend le contrôle du pouvoir en s'octroyant même des pouvoirs qu'il n'a pas. C'est comme s'il est maintenant le remplaçant du président de la République. Et maintenant, il est en train, et avec la bénédiction de la communauté internationale, de prendre un ensemble de décisions très graves au nom du pays. On est encore plus choqué de voir que la représentante de l'ONU en Haïti, c'est Mme Lalim, qui dirige le BINU, et donc ce sont les Nations Unies, qu'elle cautionne et ses actes en disant que c'est ce monsieur-là qui est normalement le remplaçant de Jovenel Moïse Et sans même discuter avec les acteurs sur place, ils ont déjà fixé leur date d'élection. Alors qu'on n'a même pas encore parlé des funérailles du président assassiné. Donc tout cela est troublant. Beaucoup des gens dans l'opposition et même aussi dans des secteurs proches de M. Jovenel Moïse sont en train de réfléchir et de se réunir pour faire une proposition parce qu'ils estiment que M. Claude Moïse devrait plutôt être sous les verrous et on devrait en train de le questionner parce qu'il a une responsabilité dans la sécurisation, la protection du président, alors que c'est lui qui est devant la scène maintenant et qui avance rapidement sur un ensemble de dossiers cruciaux qui quand même contribué à aggraver la crise politique. Donc, beaucoup de gens se demandent s'il ne s'agit pas, on n'est pas en présence d'un coup d'État avec des implications internationales.
Ouais. Et bon, donc, dans ce scénario, ce que vous décrivez, Claude Joseph, qui aujourd'hui est soi-disant le chef en tête de l'enquête, il devrait être plutôt le suspect numéro un.
Tout à fait. Lui est le directeur général de la police. D'ailleurs, c'est lui qui a orienté dès le début l'enquête vers les étrangers. Il a commencé à dire que ce sont des gens qui parlaient l'espagnol et l'anglais. Je crois qu'il avait même cité le nom des Colombiens et même des Vénézuéliens dès le début. Et donc, on devrait lui poser des questions. De même que Monsieur Charles, Léon Charles, qui est le directeur général de la police. Jusqu'à présent, on n'a arrêté personne au sein de l'unité de protection du président, parce qu'il y a quand même une unité spécialisée de la police nationale qui s'occupe de cette tâche. On a seulement annoncé que les deux principaux responsables sont convoqués auprès du parquet, et pour une audition la semaine prochaine. Et jusqu'à présent, quand on a demandé combien de policiers étaient en poste à la résidence de M. Jovenel Moïse, on ne peut pas donner la liste. Par contre, on sait très bien, ils disent qu'il s'agissait de 28 étrangers qui ont fait le coup. Donc, on a vraiment beaucoup de questions sur l'efficacité de la police qui ne peut pas donner des informations sur et cette troupe et qui a des informations sur le groupe qui aurait fait le coup. Okay. Il y a beaucoup de gens qui commencent à réclamer plutôt une enquête internationale.
Oui. Et justement, cette enquête internationale, ça serait probablement une solution pour éclairer les circonstances de cet assassinat qui surtout fait poser des questions aujourd'hui. Maintenant, parce que selon les deux constitutions, celle de 87, celle de 2011, la personne qui devrait prendre la place président, ça pose des problèmes. En tout cas, dans les deux constitutions, la solution, selon la constitution plutôt, la solution, c'est les élections. Est-ce que aujourd'hui, dans la situation que Haïti se trouve, est-ce que effectivement la solution serait d'organiser des élections dans les circonstances d'aujourd'hui?
À mon avis, non, parce que les élections ne représentent pas une panacée. On fait des élections pour renouveler un personnel politique et dans des conditions qui permettent effectivement d'avoir une participation populaire et une grande transparence dans le système. Les conditions ne sont pas réunies en Haïti pour avoir des élections crédibles, honnêtes et transparentes. Il y a un ensemble de paramètres qui ne sont pas maîtrisés et c'était ça qu'on reprochait à M. Jovenel Moïse. Non seulement qu'on pensait qu'il avait déjà terminé son mandat, mais la manière dont il était en train de préparer la liste électorale en fabriquant des cartes électorales et dans des conditions obscures. Ensuite, c'est lui qui a mis son propre conseil électoral qui n'est pas approuvé par l'ensemble des acteurs politiques et c'est un conseil qui n'avait pas prêté serment, etc. Ensuite, on sait très bien que du point de vue budgétaire, on ne voyait pas comment tout cela allait être financé. Il n'y avait pas une loi électorale, etc. Donc, on n'était pas vraiment et on n'est pas encore dans une ambiance électorale. Nous pensons, nous autres, et ça, c'est mon point de vue en tant que citoyenne haïtienne, c'est que il y a une crise structurelle profonde en Haïti et c'est à cette crise qu'il faut s'adresser en essayant de regarder les causes profondes et de rechercher des solutions. Dans cette recherche de solutions, bien sûr, il y aura des élections pour renouveler le personnel politique parce qu'il faut quand même des gens qui soient acceptés par la population pour diriger le pays. Mais les élections, c'est pas le numéro un. Donc, si on commence avec des élections en négligeant tout le reste, on va encore retomber dans des crises beaucoup plus profondes. Et c'est ce que la communauté internationale n'arrive pas à comprendre et veut continuer à faire les mêmes erreurs. Je vous fais remarquer que les Nations Unies sont en Haïti depuis 15 ans. Et bien avant, ils étaient là, ils sont partis, ensuite ils sont revenus en 2004 avec la MINUSTA. Mais qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a rien donné. Actuellement, il y a déjà une mission des Nations Unies dans le pays. Et c'est des millions de dollars, plus de 500 000 dollars qui sont dépensés chaque année. Ça n'a rien donné en termes de construction démocratique, en termes de renforcement des institutions. Au contraire, les institutions, que ce soit la police, et le système judiciaire, même le Parlement, sont devenus affaiblis. Donc les Nations Unies ou tout ce monde qu'on appelle communauté internationale, ils doivent faire aussi leur évaluation et donner la chance au peuple haïtien de trouver une voie. Et c'est cet appel que tous les secteurs de la vie nationale sont en train de lancer, que nous lançons au monde entier, tout en dénonçant cette précipitation de Mme Lalime du BINU pour que des élections soient organisées rapidement. Elle a pris le droit, sur elle, le droit de désigner M. Claude Joseph comme celui qui remplace, comme le remplaçant de Jovenel Moïse. Nous trouvons cela très, très grave.
Oui, peut-être parce que vous dites il faut rassembler les conditions avant d'organiser des élections, mais c'est qui devrait dire les forces vives de la nation dont vous parlez, qui devrait créer ces conditions pour les élections, c'est qui alors?
Bon, il y a des gens qui pensent que ce qui reste du Sénat, parce qu'il y a quand même 10 sénateurs qui étaient sortis des élections, qui sont restés là. C'est vrai que M. Moïse avait neutralisé complètement le Parlement, il a rendu dysfonctionnel, mais il y avait quand même 10 sénateurs qui sont encore là, il n'a jamais fait appel à eux. Tout le monde pense que ce sont les seuls élus qui existent maintenant dans le pays, ils peuvent jouer un rôle, d'autant plus que l'article 149.1-1 auquel M. Claude Joseph fait référence, dit clairement que si, pour une raison ou une autre, le président ne peut plus exercer sa fonction et qu'il se trouve dans la dernière année de sa présidence, c'est le Parlement qui doit trouver une solution. Étant donné que le Parlement est dysfonctionnel et qu'il y a quand même 10 élus qui restent, on pense que c'est à eux, particulièrement le président du Sénat qui est encore là, de prendre la relève pour essayer de trouver une solution en discutant avec les différents acteurs politiques et en discutant aussi avec le Premier ministre qui avait été désigné, a choisi même et nommé, parce que son nom était déjà sorti dans les journaux officiels, par M. Jovenel Moïse, pour rassembler les forces vives du pays pour rechercher un consensus. Parce qu'il n'y a pas de solution constitutionnelle. Ce que M. Claude Joseph est en train de faire maintenant, c'est de continuer sur la même voie qui irrite et tout le monde. Il reprend le même discours, il dit qu'il va poursuivre les idéaux de Jovenel Moïse, alors que ce qu'il faisait était très décrié, très dénoncé. Donc c'est un monsieur qui poursuit sur la même voie et qui attise encore et les conflits au lieu d'avoir un discours d'apaisement.
Madame Colette Lespinasse, on va clôturer cette émission ici. Je vous remercie, on vous remercie beaucoup pour cet éclaircissement, je crois très important. C'est pas surtout, je retiens, c'est pas en premier lieu les élections qui vont porter la réponse, mais il faut créer les conditions pour organiser des élections avant, avec les 10 sénateurs, les 10 élus qui restent aujourd'hui.